Le lendemain, un camion militaire s'arrêta devant l'hôpital pour livrer plusieurs caisses de masques à gaz. L'intelligence service avait, disait-on, saisi des documents alarmants qui faisaient craindre une attaque massive au moyen de gaz asphyxiant largués du haut des nuages par les bombardiers allemands. Les masques étaient rudimentaires, simples groins de tissu bourrés d'une étoupe imbibée de substances filtrantes. Seuls les soldats bénéficiaient d'un équipement sérieux. Tout le monde dut se résoudre à se promener avec en bandoulière le petit cylindre métallique qui, à force de rebond, finissait par vous meurtrir la hanche. « les gaz » répétait-on au long des corridors. Et l'on reniflait avec ardeur, s'évertuant à détecter l'odeur suspecte qui précéderait la brume mortelle poussée par le vent. « Ils vont nous asphyxier, tous !» chantonna Huck lorsque la jeune femme le rejoignit sur la plateforme de guet. « Je sais comment ça se passe. Mon père était dans les tranchées en 14. Il faisait partie du corps expéditionnaire qui est allé prêter main-forte à ces bons à rien de mangeurs de grenouilles. Les gaz, ça ne pardonne pas. Tout le monde y passera. Les rues seront remplies de cadavres. Ensuite, les Boches n'auront qu'à débarquer, à faire le ménage et à s'installer chez nous. Ça leur sera commode. Ils trouveront des appartements tout équipés, des armoires pleines de vêtements. Tais-toi, intervint Ami. Ne raconte pas ce genre de truc à Maggie, ou elle va piquer sa crise. Pendant qu'elle parlait, elle avait porté les jumelles à ses yeux et exécuté un rapide tour d'horizon. Soudain, elle se figea, mal à l'aise, gagnée par la sensation d'être observée. Elle reprit son examen du paysage des toits avec plus de lenteur et découvrit qu'elle ne s'était pas trompée. Quelqu'un la regardait à 400 mètres de l'hôpital. Un homme grimpé lui aussi au sommet d'une tour d'observation et dont le visage se trouvait dissimulé par une paire de jumelles marines. « C'est moi qu'il fixe, » se dit la jeune femme. « Il ne regarde que moi, pas la ville ou le ciel, non, seulement moi. » C'était étrange d'être ainsi dévisagé par un inconnu perdu au milieu du moutonnement des toits à 10 rues d'intervalle. Étrange et dérangeant. Ami aurait voulu lui signifier de cesser son manège, mais elle demeura clouée au bord du vide, les doigts crispés sur les oculaires, incapable d'ébaucher le moindre geste. « C'est comme si j'étais une biche, » songea-t-elle, « et qu'un chasseur me lorgnait, embusqué au sommet d'une colline, son fusil déjà calé au creux de l'épaule, prêt à faire feu. » Elle fit un pas en arrière pour essayer de rompre l'enchantement qui la tenait paralysée, offerte, et faisait d'elle une proie consentante. Allons, tout cela était trop stupide. Il s'agissait d'un guetteur qui, pour tromper l'ennui, s'amusait à épier les filles depuis son perchoir. Elle n'avait qu'à lui adresser un geste obscène, il cesserait aussitôt son déplaisant manège. Brusquement, l'homme baissa ses jumelles. Il portait un masque à gaz de l'armée qui dissimulait ses yeux derrière deux pastilles de verre, et cet attirail caoutchouteux lui donnait l'aspect d'un homme crapaud dressé sur ses pattes postérieures. La cape noire dont il était enveloppé accentuait son apparence sinistre. Ami frissonna, impressionné par cette apparition. L'homme crapaud resta un moment immobile, puis il leva lentement la main droite et pointa l'index vers la jeune femme comme pour lui dire « Je t'ai vu le premier. À présent tu es à moi. Je vais venir te chercher. » Ami serra les dents. Où allait-elle pêcher de pareilles fadaises? Pourquoi ce bonhomme l'effrayait-il à ce point? Là-bas, l'homme crapaud venait de lui tourner le dos. Ami le vit disparaître par une trappe, comme s'il avait décidé de descendre de la tour de guet. Mon Dieu, ne put-elle s'empêcher de penser. Ça y est, il vient me chercher. Elle prit conscience qu'elle haletait et laissa retomber les jumelles sur ses seins. Où prenait donc naissance la panique qui s'emparait d'elle? Il lui sembla se rappeler un conte ancien. Un prince crapaud désirait se marier, hélas, comme on peut s'en douter, aucune fille ne voulait de lui. Alors il commandait une lunette magique à une sorcière de sa connaissance. Au moment de lui remettre l'objet, l'enchanteresse déclarait « La première fille que tu regarderas à travers cette lentille deviendra ton esclave. Elle ne pourra refuser de te suivre, encore moins de devenir ta femme. » « C'est ce que tu voulais, non ?»« Oui, C'était quelque chose de genre. Et elle venait de succomber à l'envoûtement, elle, Annie Sweetheart, la fille aux cheveux rouges. Le prince crapaud l'avait regardée, maintenant il était en marche pour venir la chercher. Elle serait forcée de lui obéir, de devenir sa femme, de... Elle s'ébroua, consciente de perdre la tête. « Tu es toute pâle, ricana Huck. Tu as vu le diable, c'est ça ?»« Quand on regarde dans une lorgnette, on finit toujours par voir le diable. Ma nurse me le disait souvent quand j'étais petit garçon. » Amy dut résister à l'envie de le gifler. Elle avait peur. Elle se pencha par-dessus la rambarde pour voir si l'homme au masque à gaz remontait la rue menant à l'hôpital. « Quand sa main se refermera sur mon poignet, se récita-t-elle, je perdrai toute volonté. Je serai incapable de résister, de me débattre. Il ne faut pas qu'il me trouve. » Le dernier geste de l'inconnu la troublait plus que tout. Cet annexe qu'il avait pointé dans sa direction, tel un pion qui menace un élève et lui signifie qu'il l'a repéré au milieu de la cohue d'une cour de récréation. « Tu ne perds rien pour attendre. » Oui. C'est ainsi qu'elle avait interprété la mimique. « Je vais m'occuper de toi. »« Je deviens folle, » pensa-t-elle. Ce n'était qu'un type qui s'ennuyait. Il a essayé de faire l'intéressant. Mais pourquoi le masque à gaz? Personne ne les enfilait hors des alertes, car ils vous faisaient transpirer. Pourquoi ce bonhomme se pavanait-il au sommet d'une tour de guet, la tête empaquetée de caoutchouc? Comme s'il voulait éviter d'être reconnu. « Oui, oui !» lui souffla une voix affolée au fond de son esprit. Il se servait du masque pour cacher son visage de crapaud. Sans ce déguisement, il ne pourrait pas se déplacer librement, mais ce soir il l'ôtera et tu devras l'embrasser. « Oui, à minuit tu deviendras la fiancée du crapaud !» Un crissement la fit sursauter. C'était Maggie qui venait prendre son quart. « Amie est toute pâle, » chantonna Huck sur le ton qu'aurait employé un garçonnet de 10 ans. « Elle a eu peur, elle a vu le diable au fond de la lorgnette. Ce soir, il viendra la chercher au dortoir, il l'emmènera avec lui et elle deviendra sa femme. »« Tais-toi !» hurla Amie, perdant tout contrôle. « Quoi ?» s'étonna Maggie. « Je voulais dire, débile, tu es complètement débile, » tempéra la jeune femme. « Excusez-moi, mais il n'a pas arrêté de me taquiner. » « Je suis nerveuse aujourd'hui. »« C'est normal, » soupira Maggie. « Cette histoire de gaz mortel n'a rien de réjouissant. Moi, je ne cesse de penser aux pauvres oiseaux qui vont mourir asphyxiés. Ils vont tomber par centaines, par milliers du haut des nuages. Les toits de la ville en seront recouverts. » Rupert Merridew recula pour se dissimuler dans l'ombre de la porte cochère. La jeune femme venait de sortir du comptoir royal des thés, épices et condiments exotiques, où elle officiait depuis 3 mois en tant que tea girl. Il releva le col du coûteux imperméable offert par sa mère, et dont il se servait pour dissimuler son uniforme. Il ne tenait pas à ce que la suspecte comprenne qu'il appartenait à l'armée. Si par malheur elle le repérait, elle le prendrait pour un mâle en quête de chair fraîche, comme il entraînait beaucoup de par les rues. La guerre, les bombardements, en un mot la mort, avaient aiguisé l'appétit sexuel des citadins. Sachant qu'ils pouvaient désormais périr au cours du prochain raid, hommes et femmes semblaient saisis d'une frénésie charnelle autorisant les pires débordements. Rupert avait vu des orgies s'improviser au fond des abris alors que la voûte tremblait sous l'effet des bombes larguées par la Luftwaffe. Il en avait été choqué. Il détestait cette atmosphère de décadence qu'il associait aux débauches latines de Tibère et de Caligula. Contrairement à la plupart des garçons de son âge, il ne lui déplaisait pas de mourir vierge, pure. Il se rappela avec agacement que ses frères, aujourd'hui morts, l'avaient surnommé le curé parce qu'il refusait de s'associer à leurs discussions interminables sur la débauche en tant qu'art. La femme avançait courbée pour échapper à la pluie, les cheveux couverts d'un fichu. Elle s'appelait Brittany Galloway. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Elle avait 25 ans. Son travail consistait à servir le thé dans les bureaux de plusieurs compagnies d'import-export. Une occupation bien commode, songea Rupert, qui vous permet d'aller et venir à travers les locaux, de fouiller, de recueillir de précieux renseignements sur les transports britanniques, les voies maritimes, la configuration des docks, des entrepôts. Toute chose bonne pour l'ennemi. Une lettre de dénonciation, arrivée sur le bureau de Devon, le supérieur de Rupert, l'avait désigné comme espionne potentielle. Curieuse, se mêlant de tout, n'ayant pas les yeux dans sa poche. Le jeune homme se rappelait fort bien chaque terme de la missive. Ce pourrait bien être l'un de ces fichus loups-garous parachutés par Berlin, avait grommé Lady Yvonne en sussautant sa pipe en bruyère d'Écosse. Les femmes excellent en sournoiserie, ce qui les dispose au détestable métier d'espionne. Voyez donc cela, mon garçon, il est possible que vous rameniez un gros poisson. Rupert s'était donc renseigné. D'emblée, Brittany lui avait déplu. Tout sonnait faux en elle. Ses sourires, ses œillades au quadragénaire ventripotent, occupant des postes de confiance. Jusqu'à ce prénom, Brittany, qui avait quelque chose d'affecté. Il était trop, comme une sorte d'estampille proclamant « Je suis une bonne Anglaise puritain, vous pouvez avoir confiance en moi ». Mais Rupert était plus malin que les moustachus rougeaux au gilet distendu. Il ne se laissait pas aveugler par la joliesse de Brit. En jugulant ses appétits, il préservait sa lucidité. Depuis quelque temps, il se voyait comme une sorte de moine soldat d'asset des services de renseignement. Un loup maigre aux yeux fiévreux, toujours à l'affût, et qui ne s'en laissait pas compter. La fille était coupable, il le sentait, son instinct lui hurlait aux oreilles qu'il était inutile de chercher à la prendre la main dans le sac, ça aurait été une perte de temps. Et puis, les espions de la cinquième colonne étaient bien organisés. Leur couverture utilisait les lacunes créées par les archives bombardées, les zones d'ombre administratives. Dès qu'on essayait de remonter dans leur généalogie, on tombait sur une mairie détruite. Un orphelinat dont la paperasse avait disparu dans un incendie. Souvent, il s'agissait d'une substitution de personnes. À cette heure, la vraie Bretty Galloway dormait 6 pieds sous terre. Avec les bombardements, il était facile de se débarrasser d'un cadavre défiguré. Rupert sortit de sa cachette pour emboîter le pas à la jeune femme. Il l'avait déjà jugée et condamnée. Il trouvait inutile de l'arrêter, de la remettre entre les mains de l'intelligence service qui, bien sûr, s'attribuerait les mérites de la prise. De toute manière, Brit ne parlerait pas. Les Boches étaient superbement entraînés et les militaires anglais bien trop éduqués pour avoir recours à la torture. Au pire, on se contenterait de quelques paires de gifles. Il n'y avait certes pas là de quoi effrayer un werwolf. Non. Rupert n'avait aucune envie de se voir dépouiller des bénéfices de son enquête par des officiers avides de promotion et habiles à se faire mousser en s'appropriant le labeur des autres. Il commençait à entrevoir une nouvelle ligne de conduite audacieuse, hérétique, affranchie des contraintes de la hiérarchie. Une façon plus efficace de servir le pays. Il ne voulait pas devenir un autre Devon vissé derrière un bureau, la pipe aux lèvres, condamné à signer des rapports en pestant contre la mauvaise qualité de l'éclairage. Brit Galloway habitait une maison délabrée de Bransbélène. La bâtisse, ébranlée par les explosions, ne résistait à l'effondrement qu'au moyen d'étés calés sur sa façade. Ainsi appareillée, elle évoquait un vieillard agrippé à ses béquilles. Il faisait sombre dans la ruelle. « Un trou à rats, » songea Rupert. « Une tanière à la mesure d'une espionne. » La fille entra sans se retourner, comme si elle n'avait rien à se reprocher. Très malin. « Du bel ouvrage, » apprécia Rupert. « Elle est forte, la garce. » Sa conviction était arrêtée. Elle s'appuyait moins sur une accumulation de preuves que sur l'absence même desdites preuves. Cela, c'était suspect. Personne ne pouvait être propre à ce point. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, une petite saleté qu'on essayait désespérément de dissimuler. Des coucheries, un avortement, des activités de marché noir, une prostitution occasionnelle. Depuis que les Américains avaient basé leurs troupes en Angleterre, beaucoup de filles s'étaient improvisées putains. Les Yankees avaient de l'argent, des cigarettes à foison, du chocolat, de la confiture, des bas en soie, des disques de jazz, de belles étoffes, des chaussures. Il leur était facile d'éblouir les Anglaises avec leurs danses hystériques et leur fichu Coca-Cola. Mais Britt Galloway ne fréquentait pas non plus les Américains. Les mirages importés de New York ou du Texas la laissaient froide. Pour Rupert Merrilew, une fille qui négligeait une source d'approvisionnement en bas neuf était forcément coupable. Il s'aperçut qu'il transpirait et que ses mains tremblaient. Il s'arrêta au seuil de l'immeuble dans l'espoir de recouvrer son calme. Pour ne pas faillir dans sa mission, il se rappela qu'en ce moment même, des dizaines de Britt Galloway officiaient sur le territoire britannique espionnant pour le compte du Reich. Dans la journée, elle jouait les serveuses, les infirmières, les employés de bureau. La nuit, elle manipulait avec fièvre la clé morse de leur émetteur-récepteur pour transmettre à Berlin les informations glanées sur leur lieu de travail. Parfois, elles étaient jeunes, jolies, et les hommes leur obéissaient au doigt et à l'œil. Parfois, elles étaient vieilles et débonnaires, gentilles. Elles avaient toujours quelques fils morts pour la patrie, dont elles pleuraient la disparition et vantaient les hauts faits d'armes. Mais, en vous servant le thé, elles s'employaient à vous tirer les vers du nez. Rupert n'éprouvait de pitié ni pour les unes ni pour les autres. Il poussa la porte de l'immeuble, se rua dans l'escalier. Britt habitait au quatrième étage, un deux pièces exigu. La nuit, elle avait l'habitude de se confectionner des vêtements à la machine à coudre. Rupert avait la certitude qu'en réalité, elle utilisait le bruit de la singère pour couvrir celui du manipulateur morse aisément identifiable. Il gagna le palier en frôlant le mur, là où les marches étaient encore solides et ne grinçaient pas. Un truc de cambrioleur appris au stage de formation. Le souffle lui manqua, la sueur dégoulinait le long de son échine. De sa poche, il sortit un passe-partout mis au point dans les ateliers de l'intelligence service. Aucune serrure ne lui résistait. Il s'approcha de la porte, y colla l'oreille. La gare était déjà à l'ouvrage, occupée à transmettre les informations moissonnées pendant qu'elle servait le thé aux fonctionnaires rougeaux lorgnant son décolleté. Il glissa la clé dans la serrure, exerça une pesée. Le verrou céda. Il agissait en état second, le cerveau en proie à l'engourdissement. Comme un somnambule, il saisit le poignard baïonnette américain, dissimulé sous son imperméable, et entra dans la pièce. La fille lui tournait le dos, penchée sur la machine à coudre. Un engin truqué, songea Rupert. L'émetteur est dissimulé dans un tiroir. Il suffit de faire coulisser le plateau pour démasquer le manipulateur morse et le tour est joué. La singère faisait un bruit infernal. Le jeune homme en profita pour s'approcher de sa proie. Il ne voulait pas courir le risque de se faire repérer, car il n'était pas sûr d'avoir le dessus en combat singulier. Ses espionnes étaient remarquablement entraînées, et il s'imaginait mal en train de parer l'une ou l'autre des prises enseignées aux parachutistes. Quand il fut derrière elle, il la baïonna de la main gauche, écrasant cette bouche chaude et moite qui lui rappela la fois où, petit garçon, mis au défi par ses frères aînés, il avait écrabouillé une limace dans sa paume en s'appliquant à ne pas vomir. De la droite, il planta la baïonnette à la verticale, au ras du cou, de manière à trancher la jugulaire. Un instructeur lui avait expliqué qu'ainsi, la lame se glissait derrière la clavicule pour s'enfoncer droit dans la cage thoracique. Là, si l'on avait de la chance ou du doigté, on pouvait pénétrer directement le muscle cardiaque. Le sang jaillit, comme lorsqu'on touche une artère. Rupert, incrédule, vit le jet rouge vif s'élever à près d'un mètre au-dessus de sa tête. Britt Galloway eut un spasme, frappa le plancher à coups de talon puis devint molle entre ses bras. Il la coucha sur le sol et, saisissant un vêtement jeté sur une chaise, le tortilla autour du cou de la morte pour aveugler l'hémorragie. Il ne tenait pas à ce que le sang filtre entre les lattes du parquet pour maculer le plafond de l'étage du dessous. Quand ce fut fait, il souleva le cadavre dans ses bras et le porta dans la chambre. Là, il l'étendit sur le lit, releva la jupe pour arracher la culotte. Il répugnait à cette mise en scène, mais son idée était d'accréditer la thèse d'un crime sexuel commis par un Yankee. Le poignard baïonnette estampillé USMC serait là pour confirmer la chose. Il voulait surtout éviter qu'un bon Anglais se trouve accusé à tort du meurtre de l'espionne. « Tu n'es qu'au tout début de ta mission, » se récita-t-il. « Si tu veux être en mesure de supprimer d'autres loups-garous, il est pour toi capital de demeurer invisible. » Personne ne doit se douter que sous tes dehors de minables sous-officiers se cache un éliminateur ne réclamant ni médaille ni citation d'aucune sorte. Il se redressa. L'édredon et le matelas boiraient le sang. Il n'y avait donc rien à redouter de ce côté. Il disposait désormais de tout son temps. Titubant, il sortit de la pièce et gagna la cuisine pour se passer de l'eau sur le visage. Puis, il ouvrit le garde-manger et s'installa devant la petite table de bois blanc où Brittany Galloway avait l'habitude de prendre son repas du soir. Il s'efforça à manger un reste de pâté, la moitié d'un œuf écossais, un ravier de concombre en salade, une petite part de tourte au bœuf. Il mâchait avec application, sans cesser d'observer son reflet dans le ventre de la bouilloire posée sur le fourneau. Une bizarre excitation montait en lui. Un criminel endurci se comporterait de cette manière, se dit-il. Il déjeunerait à trois pas de sa victime sans éprouver le moindre remords. Quelque part, c'était une épreuve qu'il s'imposait, un rituel, une initiation. S'il réussissait à manger sans vomir, cela signifierait qu'il était désormais prêt à accomplir de grandes choses. Il agirait seul, affranchi du joug de toute administration. Qu'avait-il besoin de demander l'autorisation à des supérieurs bâtis sur le modèle de Devon ? « Je vais devenir un héros », murmura-t-il dans le silence de la minable petite cuisine aux vitres barbouillées de bleu. « Pas besoin de s'asseoir aux commandes d'un avion de chasse pour être un héros. Non. On peut tout aussi bien œuvrer dans l'ombre, dans l'anonymat. » Il étouffa un ricanement en pensant à sa mère confite en dévotion, à ses deux frères morts lors d'une séance d'entraînement, avant même d'avoir abattu un seul ennemi. « Avant même d'avoir tué un seul Allemand » s'esclaffa-t-il, tandis qu'un rire nerveux le pliait en deux. Il dut lutter pour reprendre le contrôle de ses nerfs. Il se força à avaler encore un peu de porridge froid, hésita à se faire du thé, renonça. Il ne fallait pas tenter le diable. Après tout, une voisine pouvait venir cogner à la porte pour emprunter du sucre, de la farine. Les femmes du peuple faisaient ce genre de choses. Maintenant, il lui fallait perquisitionner, trouver la cache avec les livrets de code, la liste des fréquences et les heures d'émission. Les espions ne pouvaient se passer de ces attributs. Il revint dans le salon. La machine à coudre était couverte de sang et il dut vaincre sa répulsion pour s'en approcher. Il ne tarda pas à froncer les sourcils. Où donc était le manipulateur Morse ? Devant lui s'étalait un fouillis de bobines, de ciseaux, une trousse à coudre, mais rien qui rappela de près ou de loin un émetteur-récepteur avec sa longue antenne. À l'instruction, on lui avait montré l'un de ses engins. Ils étaient fort encombrants, de la taille d'une valise et affreusement lourds. Mais cela ne prouvait rien. Les nazis avaient pu mettre au point un appareil miniaturisé, l'un de ces prodiges de la technique dont ils avaient le secret. À grands gestes nerveux, il bouscula la machine, ouvrant les tiroirs, cherchant une cachette, un panneau pivotant qui lui révélerait l'habituel fouillis de triodes et de condensateurs. Il ne trouva que des chiffons, des épingles, des ciseaux à cranter. La garce, songea-t-il. Elle a planqué son matériel plus habilement que je ne le pensais. Il commençait à s'affoler. Ouvrant les placards, il sonda plancher-mur en quête d'un panneau secret. Puis, à quatre pattes, examina les lattes du parquet. L'une d'entre elles pivotait probablement. Le poste se tenait recroquevillé là-dessous, à n'en pas douter. Il s'aperçut qu'il parlait de la machine comme d'un animal, d'un rat, qu'il lui fallait débusquer. Bon sang, le temps filait. Si on le surprenait maintenant, il aurait le plus grand mal à justifier sa présence et s'en serait fini de son grand projet. Il devait se replier, effacer ses traces, ses empreintes. Il se redressa, se rajusta, se recoiffa. Dans le miroir de la commode, il se trouva l'air d'un fou. Il faudrait corriger ça, avoir plus de sang-froid à l'avenir. C'était ma première fois, pensa-t-il en guise d'excuse. J'ai été trop brouillon, j'ai manqué une méthode. L'important, c'est d'avoir supprimé une espionne. Oui, c'est tout ce qui compte. Avec le temps, j'apprendrai à mieux me débrouiller. Il fit le tour de l'appartement pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. Il essuya les couverts utilisés, la chaise, la table, tout ce qu'il avait touché. Devant le corps aux jambes écartées, il éprouva une étrange satisfaction. « Une de moins, » se répéta-t-il, « la première d'une longue liste. Salope de nazi, tu fais moins la fière à présent. » Oui, c'était décidé. Désormais, il ne perdrait plus son temps en enquêtes interminables, infructueuses. Il se fierait à son instinct, uniquement à son instinct. Tout le reste était superflu. Les suppositions, les indices, les preuves. Les espions étaient bien trop habiles pour se trahir. L'arsenal policier ne pouvait rien contre eux, il fallait développer une autre tactique. Rassuré, il récupéra son chapeau et l'enfonça bas sur son front afin de masquer ses traits. Il coupa le gaz d'éclairage et sortit. L'escalier était désert. 2 minutes plus tard, il remontait la ruelle, tête baissée. Mentalement, il dressa la liste de ses prochaines interventions. Beaucoup de noms s'imposaient à lui, des noms de femmes. En troisième position venait celui d'Harmony Sweetheart.